7h30, le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et nous serons d'abord à Sanary dans le Var, où trois personnes sont recherchées ce matin après l'effondrement d'un immeuble. Une explosion en serait à l'origine, les derniers détails à suivre. La vaccination à fond pour éviter de sévères restrictions, c'est le pari du gouvernement qui referme toutefois les boîtes de nuit et impose le masque dans la cour de récré. Nous reviendrons sur les annonces d'hier soir. Dans ce journal aussi, le procès du 13 novembre et le grand malaise des parties civiles face aux témoignages des enquêteurs belges. Le handicap qui doit être mieux représenté au sein du personnel politique, c'est l'alerte des associations avant la présidentielle. Et un festival maintenu malgré la flambée épidémique, le Fnac Live à Paris.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui la députée des Deux-Sèvres, Delphine Bateau. Elle est la porte-parole du candidat écologiste à l'élection présidentielle, Yannick Jadot.
France Inter.
Et ce matin, Alexis, l'inquiétude à Sanary, dans le Var.
Après l'effondrement d'un immeuble d'habitation dans la nuit, les premières images sont assez impressionnantes. Le bâtiment de trois étages est complètement éventré, des gravats recouvrent la rue, près du port de cette commune située à 10 km de Toulon. Mais combien d'occupants étaient vraiment présents au moment du drame? C'est toute la question à l'heure où l'on se parle, Armelle Balogog.
Deux personnes ont déjà pu être extraites des décombres, dont une inconsciente selon la préfecture du Var, mais les recherches se poursuivent. Les pompiers affirmaient plus tôt cette nuit que cinq personnes étaient probablement bloquées dans les décombres. Il en reste donc trois à secourir. 70 pompiers sont mobilisés pour les retrouver. 4 ambulances, 2 véhicules de lutte contre les incendies, une échelle aérienne et 2 équipes spécialisées en sauvetage et en déblaiement sont attendues sur les lieux. 2 équipes cynophiles aussi avec des chiens donc pour retrouver les habitants qui sont peut-être coincés sous les décombres. La préfecture a ouvert un gymnase pour accueillir les sinistrés. L'immeuble faisait 3 étages. Il a été éventré par une explosion vers 4h10 ce matin. Selon nos confrères de France Bleu Provence, elle a été provoquée par une fuite de gaz. Le quartier du port, la rue Jean Jaurès précisément, sont donc à éviter ce matin à Sanary-sur-Mer.
Précision signée Armelle Balogog et à l'instant le président de la région PACA, Renaud Muselier, réagit sur Twitter, déplorant de terribles images. On reviendra évidemment sur les circonstances de ce drame dans nos prochaines éditions.
Il est 7h32, les patrons de l'événementiel et des discothèques ont rendez-vous, Alexis, à Bercy dès aujourd'hui.
Quelles nouvelles aides pour ce secteur? Après l'annonce de Jean Castex, les boîtes de nuit vont devoir refermer pour 4 semaines, donc pendant les fêtes de fin d'année. C'est finalement la seule restriction forte dévoilée hier face à la 5e vague de Covid. L'autre changement concerne l'école, où le protocole passe au niveau 3, mais là aussi rien de révolutionnaire, le masque devient obligatoire à l'extérieur, dans la cour de récré, le brassage est limité à la cantine, et il faut éviter les sports de contact. Un peu trop léger pour certains enseignants et élus locaux, comme dans le Doubs, département très touché ces derniers jours, Thibault Lefebvre.
Le taux d'incidence dans le Doubs frôle les 600 cas pour 100 000 habitants. Il est presque 2 fois plus élevé chez les enfants. Alors, à minima, Karine Laurent, enseignante en maternelle et co-secrétaire départementale du SNUIPP-FSU, espérait un retour à l'ancien protocole.
La mesure qui avait été prise à la rentrée de septembre, fermée une semaine en cas de cas positif dans une classe, on trouvait que ça correspondait à la réalité du terrain. Mais là, c'est au moment où l'épidémie a explosé chez les enfants d'âge primaire qu'on diminue la contrainte. Et faire tester les enfants le plus rapidement possible et qu'ils reviennent à l'école dès qu'ils ont un test négatif, alors que la période d'incubation n'est pas écoulée, c'est vraiment n'importe quoi.
N'importe quoi, ou en tout cas pas forcément plus simple, et notamment pour les élus en charge des écoles élémentaires et maternelles. C'est le cas de Patrick Genre, il est maire de Pontarlier à la frontière suisse.
C'est une agilité en permanence à avoir entre l'éducation nationale, entre la commune, avec l'ARS là au milieu, enfin bon... C'est pas simple. Il aurait peut-être été plus judicieux d'avancer les vacances pour essayer de couper cette propagation du virus au sein des écoles. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir de la clarté. On peut considérer que c'est pas forcément très très clair pour l'instant.
Il y a actuellement à Pontarlier une 30aine de cas positifs au Covid sur un peu plus de 1400 enfants scolarisés.
Les enfants désormais au centre de toutes les attentions, vu les taux d'incidence records dans cette tranche d'âge. La vaccination des 5-11 ans pourrait commencer avant la fin du mois. mois sur la base du volontariat. Et si les autorités sanitaires donnent leur feu vert, le vaccin, c'est ce qui doit nous permettre de passer cette cinquième vague sans mesures très sévères, estime l'exécutif. Alors dès aujourd'hui, les plus de 65 ans sont censés pouvoir accéder plus facilement à la dose de rappel. Ils peuvent se présenter sans rendez-vous dans les centres. Mais la logistique va-t-elle suivre ? Tristan Hébert dirige le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris.
Nous avons déjà donc depuis plusieurs jours une file d'attente à l'extérieur du centre de vaccination. Et là, très concrètement, nous ouvrons une deuxième file d'attente spécifiquement pour les personnes de plus de 65 ans. Et nous venons de recruter également une infirmière qui va s'occuper spécifiquement de cette file d'attente. C'est difficile de calibrer ce nouveau flux de personnes. Les personnes de plus de 65 ans, c'est pas la majorité des personnes qui se présentent, malheureusement, parce qu'on sait que c'est le public le plus fragile. Mais bien sûr, dès que nous voyons des personnes âgées s'approcher du centre, nous les priorisons déjà. Mais là, on va créer spécifiquement une file d'attente vraiment adaptée pour ces personnes, pour les prendre immédiatement.
Tristan Hébert du centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne. Et puis, ce n'est pas une interdiction, mais une recommandation très ferme. Évitez de voyager en France, conseillent ce matin les autorités américaines à leurs ressortissants. En raison de la situation sanitaire, le département d'État relève au plus haut niveau son alerte pour l'Hexagone. C'est un malaise qui gagne petit à petit la salle d'audience ces derniers jours au procès du 13 novembre 2015. Malaise face aux auditions des enquêteurs belges. Depuis deux semaines et jusqu'à demain, ils témoignent anonymement et à distance par visioconférence pour revenir sur le parcours des membres du commando des attentats, retracer aussi leur volet de cette enquête tentaculaire. Mais ces auditions sont donc très critiquées, notamment par les parties civiles, Charlotte Piret.
L'agacement, c'est sans doute le sentiment le mieux partagé face aux enquêteurs belges. Agacement des parties civiles devant les manquements qu'ils tentent en vain de dissimuler. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut rappeler aux témoins qu'il a juré de dire toute la vérité, soulève un avocat de partie civile. Les policiers et le parquet belge se moquent de la justice française et des victimes, ajoute sur les réseaux sociaux le président de l'association de victimes Life for Paris. Il faut dire qu'à chaque parcours évoqué ou presque correspond un raté. Téléphone saisi mais analysé trop tard et dans lequel des conversations explicites seront retrouvées, passeport octroyé à celui qui deviendra le commanditaire des attentats depuis la Syrie et qui pourtant était mis en examen pour des faits de terrorisme, etc. etc. Et la tension monte encore d'un cran. Lorsque la défense entend répondre à son tour, il faudra voir cela avec mon collègue. Je n'ai pas les éléments pour répondre à votre question. Alors certes, les derniers enquêteurs entendus ont semblé plus disposés à coopérer, mais il reste notamment un parcours délicat analysé cette semaine, celui du principal accusé, Salah Abdeslam.
Charlotte Piret au procès du 13 novembre.
Il est 7h38, elles ne veulent pas être les oubliées de la campagne présidentielle.
Les associations de personnes handicapées compte bien peser sur les programmes des candidats, mais pas seulement. C'est aussi leur représentativité qui est en jeu dans cette campagne. On estime que 10% des Français ont un handicap, et pourtant, ils sont pratiquement absents du paysage politique, en tout cas au premier plan. Rien qu'à l'Assemblée nationale, un seul député avec un handicap visible, le LR Damien Abad. Alors, à quelques mois des échéances présidentielles et législatives, l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques lance un appel, tout simplement pour que ça change, Hélène Chevalier.
Mathieu Hanrot est élu d'opposition à Saint-Herblain en Loire-Atlantique depuis 7 ans. Un conseiller municipal aveugle, ça n'était pas du goût de tout le monde au début.
J'ai pu avoir des attaques très dures. Par exemple, un candidat non-voyant et pourquoi pas une chèvre. Des propos tenus en mairie par d'autres élus, par exemple.
Des incivilités qui n'existeraient pas si les personnes en situation de handicap étaient plus nombreuses dans le paysage politique, estime le président de l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées.
On dénombre quelques dizaines d'élus au niveau communal. Un seul député sur 577, c'est trop peu. Et on pense, comme pour l'inclusion scolaire, comme pour l'inclusion dans le milieu professionnel, que l'inclusion dans le champ politique permettra de tordre le cou à ces stéréotypes, à ces clichés.
Encore faut-il que les personnes en situation de handicap osent s'engager. Beaucoup s'auto-censurent encore. Il faut également qu'elles puissent recevoir une aide humaine ou technique.
Il y a un vide juridique aujourd'hui en France. Il n'y a pas de compensation du handicap dans le champ d'une activité politique. C'est le cas, par exemple, au niveau du Parlement européen. Il y a un fonds dédié qui accompagne les députés européens en situation de handicap pour financer justement une aide humaine, l'interprétariat en langue des signes.
Si à l'origine il était opposé à l'idée de quota, Mathieu Hanrot estime aujourd'hui que c'est la seule solution pour faire enfin bouger les choses.
Hélène Chevalier, tout le monde se fiche de la présence de ces gens. Ce matin, la diplomatie chinoise se moque et tente de minimiser l'annonce des États-Unis. Ils vont boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Washington veut ainsi dénoncer, je cite, les violations flagrantes des droits humains en Chine et les atrocités commises contre les Ouïghours. Il y aura bien des sportifs américains en février à Pékin, mais aucun représentant du gouvernement.
Il est 7h40 quand la culture tente de résister à la cinquième vague de Covid.
Oui, car il n'y a pas que des annulations ces derniers jours. Certains événements sont bien maintenus, quitte à s'adapter. Et on vous en parle sur Inter, à l'image du festival parisien Fnac Live, de retour depuis hier soir dans la capitale, au théâtre du Châtelet. Festival hybride, donc moitié en public, moitié numérique, Mathieu Culeron.
Fnac Live, comment ça va chez vous derrière là? Comment ça se passe?
Après l'annulation du festival l'année dernière dans sa version publique sur le parvis de l'Hôtel de Ville, le festival parisien décide d'opter pour une version digitale et en public au Théâtre du Châtelet. Il était important d'exister malgré le contexte pour le festival parisien. Estelle Flavé est responsable des événements pour la Fnac.
Cette année, on est parti vraiment sur une version hybride, c'est-à-dire 10 concerts qui ont été enregistrés dans les salons de l'Hôtel de Ville et un format en physique au Théâtre du Châtelet avec 3 concerts, 4 Power, Curtis Hardy et Sofiane Pamart. Alors nous, on espère vraiment revenir à un vrai festival public et on restera aussi sur une version digitale pour la suite.
Pour Fnac Live, changer de lieu et d'univers par contrainte a permis de repenser l'affiche, comme le confirme Nicolas Préché, programmateur du festival.
On a décidé d'essayer de mettre à l'honneur des musiques qui habituellement on a du mal à traiter en extérieur avec un gros zoom en fait sur une scène vraiment hip-hop. On s'est posé la question jusqu'à un dernier moment puisqu'on avait des groupes étrangers pour le coup, s'ils allaient être là ou pas. À chaque fois qu'on avait le mot Covid dans le mail, on s'inquiétait de savoir qu'à contact, annulation, pas annulation, ça tient pas. Et il y avait vraiment une envie d'incarner quelque chose et de défendre la musique au sein de la Fnac et la musique à l'Hôtel de Ville et la musique à Paris.
Ce soir, à partir de 19h sur le site l'éclaireurfnac.com, Fnac Live propose la diffusion des concerts entre autres de 47 Terres, Joy Sad, Frankie Gogo ou encore The Liminianas.
Mathieu Culeron pour ce Fnac Live Festival à Paris. C'est jusqu'à ce soir, donc en physique et en numérique.
Merci Alexis Morel. Thomas Legrand à suivre.